Bien, on va parler aujourd'hui dans la suite de ce qu'on avait fait les dernières fois, si vous vous en souvenez, du problème de l'autorité dans la famille. C'est quelque chose qui est assez important, vous aurez l'occasion de redire à ceux qui ne sont pas là, donc qui est capital même. Et je crois que comme la plupart des parents n'ont pas l'occasion de trouver ces textes ou de les lire simplement par manque de temps, manque parfois de références, je crois qu'il est bon de faire un petit peu ce qu'on avait commencé. Simplement se reporter au texte du magistère et au texte de quelques auteurs qui ont extrêmement bien vu la question de l'autorité, en particulier un certain monsieur Marcel de Corte, qui était un professeur en Belgique et qui a écrit assez souvent dans les débuts de la revue Itinéraire. Voilà, alors, en guise d'introduction, je vais reprendre une phrase qu'on avait citée dans les conférences précédentes. Cette magnifique phrase de Pie XII qui disait que les parents sont les collaborateurs dans l'œuvre de l'éducation, sont les collaborateurs du Père dans l'œuvre de la création, collaborateurs du Fils dans l'œuvre de la rédemption et collaborateurs du Saint-Esprit dans son œuvre d'illumination et d'éducation. On voit par là que les parents, dans la famille, tirent leur autorité directement de Dieu. De Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, de toute la Sainte Trinité. Que nous disent les Saintes Écritures au sujet de l'autorité? On ne trouve pas, pratiquement pas dans la Bible, le terme auctoritas, autorité. Non. Par contre, on trouve le mot de potestas, puissance. Puissance qui désigne également l'autorité, la faculté d'exercer un pouvoir moral sur quelqu'un. Et on le trouve en particulier, vous en souvenez bien, probablement dans l'interrogatoire de notre Seigneur, l'interrogatoire que Pilate faisait à notre Seigneur. Dans l'évangile de Saint Jean, souvenez, lorsque Pilate prend à partie notre Seigneur en lui disant « Comment tu ne me parles pas ?» Et il continuait en s'adressant à notre Seigneur « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, potestatem, que j'ai le pouvoir de te livrer, de te crucifier ?» Et notre Seigneur de lui répondre « Tu n'aurais pas de pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Le pouvoir, tout pouvoir, vient donc de Dieu. On le trouve de manière plus explicite dans l'Épître aux Romains de saint Paul. « Non est enim potestas nihil Deo, il n'y a pas de pouvoir si ce n'est de Dieu. » Il continue « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne soit de Dieu. Et celle qui existe sont établis par Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre voulu de Dieu. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, continue saint Paul, fais le bien, et tu auras son approbation. Car l'autorité est pour toi le ministre de Dieu en vue du bien. » Ministre de Dieu en vue du bien. Alors on peut voir immédiatement par ces textes, déjà, une définition sommaire de ce qu'est l'autorité. C'est un pouvoir qui vient de Dieu, c'est une participation au pouvoir de Dieu, une faculté qui doit diriger, régérer, diriger selon l'ordre voulu de Dieu en vue du bien. Tous ces mots, tous ces petits termes définissent ce qu'est l'autorité. Il y a un ordre foncier à rechercher par ce pouvoir, cette faculté à exercer sur ceux qui sont soumis. Voici également ce que disait le pape Pie XII en 1941, le 24 septembre, toujours dans ses discours aux jeunes mariés. L'autorité consiste en cette supériorité morale qui constitue et rehausse l'autorité effective, opérante, efficace, qui réussit à s'imposer aux autres et obtient de fait l'obéissance. Et puis Pie XI, dans Divini Ilius Magistri, donne quelque chose de plus précis. En premier lieu, la mission éducatrice de la famille concorde admirablement avec celle de l'Église, puisque toutes deux procèdent de Dieu d'une manière toute pareille. En effet, dans l'ordre naturel, Dieu communique immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, donc principe du droit de former à la vie, en même temps que l'autorité qui est principe d'ordre. C'est capital. L'autorité est principe d'ordre. Et dans tous les devoirs qui incombent à l'autorité, on le verra tout à l'heure par les textes des textes plus particuliers, il faut rechercher cette ordination à donner aux petites âmes qui sont confiées. Ordination des enfants, des patients, des enfants à la raison. Ordination de la raison à la foi, par l'autorité des parents, qui doit corriger, qui doit reprendre, qui doit encourager, tout simplement. Que les parents, donc, et avec eux tous les éducateurs, s'appliquent à user en toute rectitude, toujours ce qui est droit, en toute rectitude, de l'autorité qui leur a été confiée par Dieu, dont ils sont en un sens très réel les vicaires. Qu'ils en usent non pour leur propre commodité, mais pour une consciencieuse formation de leurs enfants dans cette sainte et filiale crainte de Dieu, fondement de la sagesse et seule base solide du respect de l'autorité. Autorité sans laquelle ne peuvent en aucune manière subsister l'ordre, la tranquillité et le bien-être de la famille et de la société. Vous voyez cette insistance du magistère de l'Église sur l'ordre, la tranquillité, la paix, le bien-être de la famille. Je vais maintenant, avant de commencer directement le premier point, qui est la famille, société hiérarchique, déjà la question entre les époux, citer quelques textes donc, de ce professeur, M. Marcel de Corte. Le premier texte est tiré d'un cours de philosophie morale qu'il donnait à Liège. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas reprendre tout le cours, ce serait peut-être un peu fastidieux. Et puis le deuxième texte est tiré d'une série de conférences qu'il avait faites et qui ont été publiées dans Itinéraire. Voici ce qu'il dit, je prendrai seulement quelques passages de ce premier texte. Pour corroborer ce que disent les papes, la communauté de destin vital par excellence est la famille. Communauté de destin vital. Il y a tout là-dedans. Une communauté. Un destin, c'est-à-dire une destination, une fin, une finalité, donc un ordre pour atteindre cette fin. Et puis, la vie, justement, vie de la grâce et vie de la nature, les deux choses à ne pas laisser de côté. Il faut la vie de la nature, donc il faut éduquer simplement les vertus naturelles, le sens naturel, l'homme, être de chair, être matériel, et l'âme, l'intelligence, les deux choses qui font la vie de l'homme. Ensuite, il parle un petit peu de la notion d'autorité, comment est-ce qu'elle s'est petit à petit forgée suivant les âges. Il parle de la civilisation médiévale avec la focalisation autour du pater familias, l'importance qu'avait le père de famille au sens large dans la famille médiévale était conçue pas simplement le noyau, mais enfin tout ce qui se regroupait autour de la famille, les cousins, etc. Il y avait le patriarche, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'un terme un peu simple, des tribus familiales centrées autour du plus ancien. C'était simplement la tradition qui était donnée par les plus anciens, c'était magnifique. Voici ce qu'il dit ensuite, quelque chose qui est très important à l'heure actuelle. La base de la famille, dit-il, de la famille actuelle, n'est plus le sentiment solide du destin commun, mais la destinée précaire du sentiment partagé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que ce qui tient la famille à l'heure actuelle, ce n'est plus tellement cette volonté de tendre ensemble par une autorité, à travers l'autorité du chef de famille, du père et de la mère, de tendre vers un but commun. Donc l'union de la famille pour atteindre le but, et en particulier ce but naturel qu'est la paix, l'union de la famille, et le but surnaturel qu'est la béatitude. Non, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus qu'une communauté de sentiment, donc quelque chose qui est très fragile. Le sentiment, c'est simplement ce qui est du domaine sensible, l'opinion partagée, ce qui morcelle la société qu'est la famille. Il dit, il faut bien autre chose qu'une fragile affection réciproque pour affermir la famille contre la dislocation qui la menace. Le sens d'une obligation mutuelle irrévocable est requis. C'est dit en peu de termes, mais de manière très belle. Il faut une obligation mutuelle irrévocable, devoir des parents envers les enfants, devoir des enfants envers les parents, pour tendre à l'accomplissement de la loi naturelle et la perfection de la loi naturelle, qui est la loi simplement des commandements de Dieu. Voilà ce qu'il faut dans une famille. C'est clair, c'est vite vu. Eh bien, l'autorité aura comme rôle justement de faire tendre tous les membres de la famille à cet accomplissement, à cet ordre, à cette paix. Dans le deuxième texte qui est tiré d'Itinéraire, il parle de l'autorité de manière plus précise. De très beaux textes qui sont à revoir, à relire souvent, parce qu'ils sont très concis, parfois un petit peu difficiles à comprendre de premier abord, mais très importants. Le problème de l'autorité, dit-il, est un corollaire du principe qui gouverne les rapports de la grâce et de la nature. Magnifique, ça. Corollaire du principe qui gouverne les rapports de la grâce et de la nature. Il y a tout l'équilibre de la perfection chrétienne. La perfection chrétienne doit tenir compte de la nature et de la grâce, des rapports grâce-nature. Comment la grâce peut perfectionner la nature? Comment faut-il disposer la nature pour que la grâce puisse la perfectionner? S'il est vrai, comme la théologie catholique l'a toujours enseigné, que la grâce n'abolit pas la nature, mais la soustrait aux influences du péché originel, la perfectionne, il va de soi que le christianisme ne peut que consolider la tendance naturelle de la partie à se subordonner au tout, de la personne à préférer le bien commun de la société dont elle fait partie à son bien particulier, des individus à se soumettre à la loi d'inégalité sans laquelle il n'y aurait pas d'échange et par suite pas de société entre eux, et ainsi à s'ordonner les uns aux autres sous l'autorité d'un chef. Très beau ça. Et encore une fois, très important à l'heure actuelle où nous voyons un continuel individualisme, tout ce qui régit dans notre société, en Suisse, les rapports familiaux, ça n'est plus que l'individualisme, l'égoïsme. Nouveau droit matrimonial, maintenant cette loi sur l'abaissement de la protection des mineurs, etc., ça n'est plus que l'individualisme, plus que l'individu qui est roi. Il n'y a plus cet oubli de soi au profit du bien commun. Il n'y a plus cet oubli du bien particulier qui doit de temps en temps se sacrifier au profit du bien familial, au profit du bien de la société. Bien sûr, on le voit dans l'ordre naturel. Ah, si ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber, quel est le réflexe? Quand on tombe par terre, la face devant nous, le premier réflexe, c'est la main. Bon, même si la main doit être blessée, si elle doit être cassée, c'est une partie du corps qui va protéger le tout. Le bien particulier de la main est sacrifié au profit d'un organe qui est plus noble, qui est plus important, la tête. Simplement, c'est un réflexe naturel, évident. Eh bien, dans le corps social, dans le corps qu'est la famille, dans la société qu'est la famille, c'est la même chose. Le bien particulier de l'enfant, qui serait peut-être de ne pas être réprimandé, donc ça fait mal parfois, une bonne fessée, eh bien, doit être sacrifié au bien de la famille, à l'ordre de la famille, à la paix de la famille, à la tranquillité de la famille. Et puis ensuite, à l'ordre de la société, car si l'enfant fait ce qu'il veut à la maison, il fera ce qu'il voudra dans la société, et on aura l'anarchie. Le christianisme ne peut croître et se développer que dans un ordre social réel. Toute société est établie sur un axiome fondamental, l'ordination des parties au tout, par une autorité législatrice, exécutrice et judiciaire. Encore une fois, tout est dit là. Ordination des parties au tout. Sous une autorité qui fait des lois, qui exécute ses lois, et puis qui punit, si besoin est. C'est clair. C'est l'essentiel de l'autorité dans la famille, ensuite dans la société. La première société, continue-t-il, dans laquelle l'homme entre est la famille. L'homme ne l'a pas choisie. Sa structure sociale s'impose à lui dès le premier instant de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est là qu'il perçoit la nécessité bienfaisante de l'autorité. Sans le pouvoir de lui imposer l'obéissance que possèdent par nature son père et sa mère, sans les multiples impératifs « fais ceci, ne fais pas cela », il mourrait en peu de temps. C'est simple, un petit enfant, maman est en train de faire la cuisine, il va au balcon, la fenêtre est ouverte. Eh oui, ça l'intéresse de regarder ce qu'il y a en dessous. Alors il va se pencher. Si on ne dit pas « ne fais pas ça », il va se pencher un petit peu plus. Eh oui, qu'est-ce qui arrive? S'il se penche trop, il mourrait en peu de temps. C'est pour la vie, mais la vie de l'âme, il en est de même. Puisqu'on se souvient bien, ce que disait le magistère de l'Église, c'est que les enfants, qui sont les sujets de l'éducation, sont des âmes qui appartiennent au bon Dieu, des trésors du bon Dieu. Il est de l'essence de la famille d'avoir un chef. Pour que la famille soit ce qu'elle est, pour qu'elle possède ce par quoi elle est, et se distingue de toute autre réalité, il faut que l'autorité y règne. Sans l'autorité, la fin à laquelle leur essence est ordonnée, c'est-à-dire l'ordre, la paix, et dont elle est inséparable, disparaît. Il n'y a plus de famille. Lorsque l'autorité doute d'elle-même, lorsqu'elle a mauvaise conscience de ses commandements et de ses interdictions, c'est la société tout entière qui en pâtit. Le navire sans pilote va droit vers l'écueil. Regardez dans une famille, si les parents ont des scrupules à exercer l'autorité, c'est-à-dire parfois à réprimander, à reprendre, à corriger, même de manière sensible, très sensible, si ça n'existe pas, c'est la catastrophe, c'est l'anarchie des passions chez les enfants. C'est l'anarchie dans la famille, simplement, peut-être entre le père et la mère, les enfants qui jouent sur les deux tableaux, papa permet ceci, maman ne le voulait pas, on se permet de tout faire, le navire sans pilote va droit vers l'écueil. C'est l'échec de l'éducation, c'est prétériter tout l'avenir des enfants. Le signe caractéristique de l'autorité juste, c'est celle qui s'exerce en vue de maintenir l'union des membres du groupe, de la famille, en quoi consiste précisément le bien commun de ce groupe, supérieur au bien particulier de chaque élément. Le bien commun est tout ce qui unit, et le détenteur de l'autorité est subordonné à ce bien commun, à un titre plus rigoureux encore que ceux qui lui obéissent. Exactement comme tous les actes du pilote sont subordonnés au port vers lequel son gouvernail dirige le navire. La dignité de l'homme consiste précisément dans le respect qu'il éprouve envers les ordonnances de la raison en vue du bien commun et qui le rend respectable. Sans la loi, remarquait déjà un païen Aristote, sans la loi, l'homme n'est qu'une bête ou un dieu. Et Marcel de Corte qui poursuit en disant « Plus exactement, c'est une bête qui se tient pour un dieu. » Belle définition. Eh bien, c'est le résultat d'une famille dans laquelle ne règne pas l'autorité. Qu'est-ce qui se passe? Ces petits-enfants qui sont sujets du péché originel n'auront pas l'ordination de leurs facultés. Qu'est-ce qu'il en adviendra? Ce seront des bêtes. Plus dangereuses que des bêtes parce qu'elles ont une raison. Donc ce sont des bêtes qui se prendront pour des dieux. C'est la civilisation qu'on a devant les yeux. Encore une fois, cette loi qui a été votée dernièrement, c'est le couronnement de ce principe énoncé par ce païen qui est Aristote et qui voyait bien, au point de vue naturel, les dangers d'une famille sans autorité. L'homme s'érige en petit dieu. En fait, ce sont ses passions qui le dirigent. Et donc, ça n'est qu'une bête qui se prend pour un dieu. D'autant plus grave. Voilà pour ces textes de Marcel de Corte. Je pense qu'on arrive maintenant à voir de manière plus particulière ce qu'il en est pour cette autorité. C'est que tout d'abord Dieu a créé la famille, donc la famille est voulue de Dieu, et il l'a créée de manière hiérarchique, ordonnée. La première chose, ça vient de Dieu, de manière hiérarchique, comme Dieu est hiérarchique, il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une hiérarchie sans distinction de valeur, le Père n'est pas plus grand que le Fils, non, Dieu est égal, c'est sûr, mais enfin il y a une hiérarchie. Le fils procède du père. Eh bien, dans la famille naturelle, il y a aussi une hiérarchie. Il y a un chef de famille. Et l'autorité qu'il détient est une faculté. Faculté qui est essentiellement dirigée par l'ordre à instaurer. C'est capital. C'est une petite chose qu'on répète souvent, mais qui doit rentrer de manière pratique dans nos familles, dans notre société. Vous verrez tout à l'heure par les textes, c'est vraiment le salut de la société entière. Si on veut restaurer un ordre catholique, tout restaurer dans le Christ, il y a un ordre voulu. Et cet ordre, c'est l'attention vers la béatitude. Et enfin, cet exercice, l'exercice de l'autorité, se fonde sur une obligation. L'obligation des parents vers leurs enfants, l'exercice de l'autorité. L'obligation des parents vers des enfants vers les parents, le devoir de l'obéissance. Alors, eh bien, pour rétablir cet ordre, il y a tout d'abord un texte. Texte important de Pie XII qui parle de la famille, le noyau familial, tout d'abord les parents, les époux entre eux. Encore une fois, si le bon Dieu a voulu la famille comme ordre hiérarchique, il y a déjà une hiérarchie entre l'époux et l'épouse. Hiérarchie qui n'est pas nécessairement une hiérarchie de valeur, c'est-à-dire, voilà, une hiérarchie de sainteté. Non, c'est pas du tout ça. C'est une hiérarchie simplement naturelle, selon l'ordre de la nature. C'est voulu par le bon Dieu. Donc, c'est suivant le respect de cet ordre voulu par le bon Dieu que l'on pourra restaurer l'ordre surnaturel. Chose qui est extrêmement importante. Et c'est dans la mesure où les époux, déjà entre eux, respecteront cet ordre, que les enfants, naturellement, tout naturellement, pourront ensuite voir dans leurs parents déjà l'ordre qu'eux-mêmes doivent avoir ensuite envers leurs parents. C'est vraiment capital, sont presque des vérités de la palice. Mais, quoique. Voici ce que disait Pie XII. Chers nouveaux mariés, bon, c'est plus le cas, mais enfin, il faut renouveler toujours la grâce, hein, c'est sûr. Peut-être plus le cas pour certains que pour d'autres, et pour ceux qui écoutent, ou qui écouteront. Chers nouveaux mariés, vous échangez il y a quelques jours, sous le regard de Dieu et en présence du prêtre, vos solennels et libres engagements. Devenus vous-même les ministres du grand sacrement que vous receviez, vous vous engagiez à une indissoluble communauté de vie. Vous avez senti, au fond de votre cœur, que vous étiez, que vous agissiez dans des conditions de parfaite égalité. Le contrat matrimonial était conclu par vous en pleine indépendance, comme entre personnes jouissant de droits strictement égaux. Votre dignité humaine s'y manifestait dans toute la grandeur de sa libre volonté. Mais en ce moment même, vous avez fondé une famille. Or, toute famille est une société. Et toute société bien ordonnée réclame un chef. Tout pouvoir de chef vient de Dieu. Donc la famille que vous avez fondée a aussi son chef. Un chef que Dieu a investi d'autorité sur celle qui s'est donnée à lui pour être sa compagne et sur les enfants, qui viendront par la bénédiction de Dieu accroître et égayer la famille, tels des rejetons verdoyants autour du tronc de l'olivier. Oui, l'autorité du chef de famille vient de Dieu, de même que c'est de Dieu qu'Adam a reçu la dignité et l'autorité de chef premier du genre humain et de tous les dons qu'il a transmis à sa postérité. Aussi est-ce Adam qui fut formé le premier, puis ensuite Ève. Ce ne fut pas non plus Adam, observe saint Paul, qui fut trompé, mais la femme qui se laissa séduire. La curiosité d'Ève a regardé le beau fruit du paradis terrestre et son entretien avec le serpent. Quel dommage n'ont-ils pas causé à Adam, à Ève, à tous leurs enfants et à nous? Or à Ève, Dieu imposa, outre de multiples peines et de souffrances, d'être assujettie à son mari. On va le voir, ensuite le pape Pie XII va faire en quelque sorte l'historique de cette... Je peux presque dire oui, c'était en quelque sorte une malédiction. Ça ne veut pas dire qu'entre Adam et Ève, avant le péché originel, il n'y avait pas un ordre. Mais il n'y avait pas cette suggestion... Cette suggestion, pardon, autosuggestion, ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette suggestion un peu rude que l'on a vue dans l'Antiquité, où la femme était carrément l'esclave du mari. Elle était une chose. Il avait droit de vie et de mort sur sa femme. Le droit romain, c'est un peu ça. C'est seulement ensuite le christianisme qui est venu mettre un ordre, l'ordre de la grâce, l'ordre du sacrement. Alors le Pie XII va parler de ceci, vous le verrez. Épouse et mère chrétienne, que jamais ne vienne à vous saisir la soif d'usurper le sceptre familial. Votre sceptre, un sceptre d'amour, doit être celui que met entre vos mains l'apôtre des nations. C'est le salut que vous procurera la maternité, c'est-à-dire, comme il le disait dans un autre écrit, combler le nombre des élus, combler le nombre des anges apostats, donner des élus au ciel, au corps mystique. Pourvu que vous persévériez dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, unis à la modestie. Dans la sainteté, par le moyen de la grâce, les époux sont également et immédiatement unis au Christ. Ceux-là, en effet, écrivait saint Paul, qui ont été baptisés dans le Christ et se sont revêtus de lui, sont tous fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, parce que tous sont un seul dans le Christ Jésus. Mais autres sont les conditions des époux dans l'Église et dans la famille, en tant que société visible. Vous voyez donc, point de vue de la grâce, de l'ordre de la sainteté, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, comme toute âme Toutes les âmes sont égales devant Dieu, c'est sûr. Mais quand il y a une société, il y a une hiérarchie, nécessairement. Donc, dans l'Église et dans la société qu'est la famille, il y a une hiérarchie. Aussi, le même apôtre avertissait-il, « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Comme le Christ, en tant qu'homme, est soumis à Dieu, et tout chrétien au Christ dont il est membre, ainsi la femme est soumise à l'homme, qui, en vertu du mariage, est devenue une seule chair avec elle. » Le grand apôtre se sentait le devoir de rappeler cette vérité et ce fait fondamental aux convertis de Corinthe, qui, sous l'influence de nombreuses idées et pratiques païennes, pouvaient facilement les oublier, se méprendre à leur sujet ou les dénaturer. Si saint Paul parlait à des chrétiens d'aujourd'hui, il disait ça en 41, qu'est-ce qu'il aurait dit 50 ans plus tard? Si saint Paul parlait à des chrétiens d'aujourd'hui, ne se croirait-il pas bien souvent dans l'obligation de leur adresser les mêmes avertissements? Ne respirons-nous pas aujourd'hui un air malsain de néopaganisme? Ensuite, alors, il va parler des conditions de vie actuelles. Donc, cette promotion de la femme dans tous les milieux de la société, donc l'accession de la femme avec le féminisme et toutes ces choses-là, à tous les postes, l'égalité de la femme et de l'homme dans les métiers, dans les travaux, etc. Et il en tire une conséquence qui est grave et que l'on voit aujourd'hui, c'est sûr, c'est que c'est une dénaturation de la famille. Quelle est la question qu'il pose? Faut-il s'étonner que le sens de la famille, le sens de la hiérarchie, pardon, dans la famille, aille s'affaiblissant et finisse par se perdre si l'époux et l'épouse travaillent tous les deux d'un côté de l'autre sans qu'il n'y ait nécessité? Parfois il y a nécessité, point de vue économique, mais s'il n'y a pas nécessité, pourquoi le faire? Faut-il s'étonner que l'autorité du père et la vigilance de la mère n'arrivent point à rendre joyeuse et intime la vie familiale? Et pourtant, l'enseignement chrétien du mariage que donnait saint Paul à ses disciples d'Éphèse, comme à ceux de Corinthe, ne saurait être plus clair. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Comme l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Et vous, mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que chacun de vous, de la même manière, aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. C'est bien loin de ce que l'on voudrait faire croire maintenant, même dans l'Église, par cet égalitarisme forcené, une sottise. Il y a un ordre. Cet ordre n'est pas un ordre de valeur, ce n'est pas un ordre d'une hiérarchie de valeur, ce n'est pas un mépris que l'on fait de la vocation de la femme. Bien au contraire. Il y a une dignité essentielle de la femme dans la maternité, dans l'éducation de l'enfant, des enfants. La femme au foyer qui est justement celle qui va façonner les petites âmes pour qu'ensuite ils puissent être formés, dirigés suivant l'ordre pour atteindre la fin à laquelle ils sont ordonnés. Bien sûr, c'est clair. Mais si la maman n'est pas à la maison, si la maman n'est pas là pour présider aux premières années de la vie d'un enfant, que se passera-t-il? C'est que ces petits enfants seront bien éloignés de l'ordre à leurs parents, l'autorité du respect dû à l'autorité de leurs parents. Maman sera comme une étrangère, papa sera comme un étranger. Il n'y aura pas de raison de les respecter. C'est pourquoi ça que le pape Pie XII continuait en disant que rétablir dans la famille la hiérarchie indispensable aussi bien à son unité qu'à son bonheur, rétablir l'amour conjugal dans sa première et authentique grandeur, ce fut une des plus grandes entreprises du christianisme. Depuis le jour que le Christ proclama à la face des pharisiens et du peuple que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Vous voyez ce qui est dit ici? C'est exactement ce que disait tout à l'heure Marcel de Corte. L'unité foncière qu'il faut rechercher dans la famille, c'est le bien commun de la famille. Mais pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Hiérarchie ordonnée dans le bien commun, qui est la béatitude au point de vue surnaturel. Ni l'homme naît dans le Seigneur sans la femme, ni la femme sans l'homme, disait saint Paul du mariage. À l'homme la primauté dans l'unité, la vigueur corporelle, les dons nécessaires au travail qui assurera l'entretien de sa famille. C'est à lui qu'il a été dit, c'est à la sueur de ton front que tu mériteras le pain. À la femme, Dieu a réservé les douleurs de l'enfantement, les peines de l'allaitement et de la première éducation des enfants, pour qui les meilleurs soins de personnes étrangères ne vaudront jamais les affectueuses sollicitudes de l'amour maternel. Alors écoutez ensuite ces belles paroles du pape. Mais tout en maintenant cette dépendance de la femme à l'égard de son mari, dépendance sanctionnée aux premières pages de la Révélation, le Christ, qui n'est que miséricorde pour nous et pour la femme, a adouci, comme nous le rappelle saint Paul, ce reste de dureté qui demeurait au fond de la loi ancienne, de cette soumission presque tyrannique de la femme au mari. Dans sa divine union avec l'Église, il a montré comment l'autorité du chef et la sujétion de l'épouse peuvent, sans se diminuer, se transfigurer dans la force de l'amour, d'un amour qui imite celui dont il s'unit à son Église. Il a montré que la constance du commandement et la docilité respectueuse de l'obéissance peuvent et doivent, dans un amour sincère et mutuel, s'élever jusqu'à l'oubli et au don généreux de soi-même. Sentiments qui, eux aussi, contribuent à faire naître et à consolider la paix domestique, laquelle, fruit à la fois de l'ordre et de l'affection, est définie par saint Augustin comme l'union harmonieuse du commandement et de l'obéissance de personnes qui vivent ensemble. Tel doit être le modèle de vos familles chrétiennes. Vous voyez ce que disait tout à l'heure, encore une fois, ce professeur Marcel de Corte, au point de vue simplement naturel? C'est exactement ce que disent les saints, saint Augustin, ce que dit le magistère de l'Église. Il y a une unité foncière dans la nature créée par le bon Dieu, dans la société naturelle comme dans la société surnaturelle. Marie, vous avez été investie de l'autorité. Dans vos foyers, chacun de vous est le chef, avec tous les devoirs et toutes les responsabilités que comporte ce titre. N'hésitez donc point à exercer cette autorité. Ne vous soustrayez point à ses devoirs, ne fuyez point ses responsabilités. La barre de la nef domestique a été confiée en vos mains. Que l'indolence, l'insouciance, l'égoïsme et les passe-temps ne vous fassent jamais abandonner ce poste. Mais envers la femme que vous avez choisie pour compagne de votre vie, quelle délicatesse, quel respect, quelle affection votre autorité ne devra-t-elle pas témoigner et pratiquer en toutes circonstances, joyeuses ou tristes. Que vos ordres, ajoutait saint Augustin tout à l'heure, aient la douceur du conseil. C'est beau ça. Que les ordres aient la douceur du conseil. La force de la persuasion par le conseil, non pas nécessairement par le coup de trique. Non, que vos forces aient la douceur du conseil. Et l'obéissance tirera du conseil courage et réconfort. Au foyer chrétien qui vit de la foi, et ce sont ces pèlerins en marche vers la cité céleste, ceux-là même qui commandent sont les serviteurs de ceux à qui ils paraissent commander. Ils commandent non pour dominer, mais pour conseiller, non par l'orgueil qui veut prévaloir, mais par la bonté qui veut pouvoir. C'est magnifique ce qui est dit là. Ensuite, alors, il exhorte les pères de famille à suivre l'exemple de saint Joseph. Suivez l'exemple de saint Joseph. Et il contemplait devant lui la très sainte Vierge, meilleure, plus sainte, plus élevée que lui. Un souverain respect lui faisait vénérer en elle la reine des anges et des hommes, la mère de son Dieu. Et pourtant, il restait à son poste de chef de famille. C'est mystérieux, ça. Il restait à son poste de chef de famille et ne négligeait aucune des obligations que lui imposait ce titre. Et vous, épouse, élevez vos cœurs. Ne vous contentez pas d'accepter et presque de subir l'autorité de votre époux, à qui Dieu vous a soumise par les dispositions de la nature et de la grâce. Dans votre sincère soumission, vous devez aimer l'autorité de votre mari, l'aimer avec l'amour respectueux que vous portez à l'autorité même de notre Seigneur, de qui descend tout pouvoir de chef. Ce texte est extrêmement important, donc c'est ce rapport d'autorité qu'il y a dans la famille, dans la cellule primordiale, donc l'époux et l'épouse. Parce que c'est de là que découlera tout l'exemple à donner aux enfants, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est beaucoup plus important que ce que l'on peut penser. Si on voit aujourd'hui des familles éclater, c'est bien souvent parce que entre les époux, il n'y a pas cette union, il n'y a pas cette, même aspiration à un ordre. Il n'y a pas la communion, on pourrait dire, dans le même idéal qui est fondé sur la béatitude à atteindre. Alors c'est capital. Capital, on peut le dire également, en reprenant une phrase qui a été dite au début, « Omnis potestas adeo, tout pouvoir est de Dieu ». On peut faire le parallèle à cette première phrase, « Omnis potestas adeo », et une autre phrase des Saintes Écritures, dans laquelle notre Seigneur nous dit que « Deus caritas est », Dieu est charité, tout pouvoir vient de Dieu et Dieu est charité. Tout pouvoir tire donc sa racine de la charité. Tout exercice de l'autorité, s'il veut être un exercice conforme à l'ordre de Dieu, doit être un exercice conforme à la charité. Donc, l'exercice de l'autorité qui doit poser des lois, poser des bornes, qui doit sanctionner ce qui outrepasse cet ordre, ces bornes, donc qui doit punir, qui doit encourager, doit tirer sa vigueur, sa force de la charité. Voilà, alors on va venir maintenant, si vous voulez, à l'exercice, même si vous ne voulez pas. C'est des formules rhétoriques qui ne veulent rien dire, excusez. À l'exercice de l'autorité. Et là également, je vais vous citer un texte magnifique de Pie XII. Une allocution aux jeunes époux du 24 septembre 41. C'est une charte. Charte, c'est autre chose. C'est une charte de l'éducation, de l'autorité dans la. Là, il y a des passages qui sont délicieux. C'est un peu long, mais comme vous avez du courage, puisque vous êtes resté malgré tout. Je vais vous le livrer en première. Que sera un jour cet enfant? Les enfants sont des roseaux agités par le vent. Ce sont des fleurs. Et il suffit d'un zéphyr pour ravir un pétale à leur corolle. C'est beau. Ce sont des plates-bandes vierges où Dieu a jeté les semences du bien que menacent les sens et les pensées du cœur humain inclinés au mal dès l'adolescence, par l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et du plaisir. Qui donc affirmera ces roseaux? Qui défendra ces fleurs? Qui cultivera ces plates-bandes et y fera germer les semences du bien malgré les embûches du mal? Avant tout, l'autorité qui régit la famille et les enfants, votre autorité aux parents. Les pères et les mères se plaignent souvent de nos jours qu'ils ne réussissent plus à se faire obéir de leurs enfants. Enfants capricieux qui ne coûtent personne, adolescents qui dédaignent tout guide, jeunes gens et jeunes filles impatients de tout conseil, sourds à tout avertissement, ambitieux d'être les premiers dans les jeux et les concours, obstinés à n'en faire qu'à leur tête, persuadés d'être seuls à bien comprendre les nécessités de la vie moderne. En somme, dit-on, la nouvelle génération n'est d'ordinaire nullement disposée à s'incliner devant l'autorité du père et de la mère. Et quelle est la raison de cette attitude indocile? Celle qu'on allègue généralement, c'est que bien souvent aujourd'hui, les parents n'ont plus le sens de la soumission, du respect, les enfants, pardon, n'ont plus le sens de la soumission, du respect dû aux parents et à leurs paroles. Dans l'atmosphère d'ardente fierté juvénile où ils vivent, tout tend à les détacher de la déférence envers leurs parents et à la leur faire perdre. Tout ce qu'ils voient et entendent autour d'eux finit par accroître, enflammer, exaspérer leur inclination naturelle et non encore domptée à l'indépendance, leur mépris du passé, leur soif de l'avenir. Si nous parlions à ce moment, dit le pape, à des enfants ou à des jeunes gens, notre dessein serait d'examiner et de peser ces causes de leur manque d'obéissance et de leur mutinerie. Mais nous adressant au contraire à vous, jeunes époux, qui aurez bientôt à exercer l'autorité paternelle et maternelle, nous voulons attirer votre attention sur un autre aspect d'une question si importante. L'exercice normal de l'autorité ne dépend pas seulement de ceux qui doivent obéir, mais aussi, dans une large mesure, de ceux qui ont à commander. En d'autres termes, autre chose est le droit à détenir l'autorité, le droit de donner des ordres, et autre chose la supériorité morale qui constitue et rehausse l'autorité effective, opérante, efficace, qui réussit à s'imposer aux autres et obtient de fait l'obéissance. Le premier droit vous est conféré par Dieu, dans l'acte même qui vous rend père et mère. La seconde prérogative, c'est-à-dire l'autorité, ce pouvoir moral, il faut l'acquérir et la conserver. Elle peut se perdre comme elle peut s'accroître. Or, le droit de commander à vos enfants obtiendra de peu de choses s'il n'est accompagné de ce pouvoir et de cette autorité personnelle sur eux, qui vous assurera, une obéissance réelle. Comment, par quel art savant, pourrez-vous donc acquérir, conserver, grandir un tel pouvoir moral? Vous voyez bien, il dit que par le fait d'engendrer des enfants, on a un droit, donc il y a un devoir à exercer, un pouvoir qui est donné, mais ensuite l'exercice de ce pouvoir, la faculté de bien le mener, eh bien ça dépend de nous, ça dépend d'un exercice, ça dépend d'une volonté de rechercher quels sont les moyens à prendre, quelles sont les décisions à tenir, à maintenir pour bien l'exercer. Dieu accorde à certains le don naturel du commandement, le don de savoir imposer à autrui sa propre volonté. C'est un don précieux. Réside-t-il tout entier dans l'esprit ou en grande partie dans la personne, le comportement, la parole, le regard, le visage? C'est souvent difficile de le dire. Mais c'est en même temps un don redoutable. Si vous le possédez, n'en abusez pas dans vos rapports avec vos enfants. Vous risqueriez d'emprisonner leurs âmes dans la crainte d'en faire des esclaves et non des fils aimants. Et oui, très important aussi, c'est ce que dit saint Paul, « Père, ne provoquez pas vos enfants à la colère, de peur qu'ils ne perdent courage, et n'exercez pas une autorité tyrannique sans fondement, arbitraire sur les enfants, non, au gré des passions, au gré des colères, au gré des impatiences, pas du tout. Non, non, ça n'est pas ça l'exercice de l'autorité, c'est bien autre. » Voici ce qu'il dit à la suite. « Joindre la douceur à l'autorité, c'est vaincre et triompher dans cette lutte où vous engage votre rôle de parent. Du reste, pour tous ceux qui commandent, la condition fondamentale d'une maîtrise bienfaisante sur la volonté d'autrui, c'est la maîtrise sur soi-même, sur ses propres passions et impressions. Une autorité, quelle qu'elle soit, n'est forte et respectée que lorsque les esprits des sujets la sentent dirigée dans ses mouvements par la raison, par la foi, par le sentiment du devoir. Car alors les sujets sentent pareillement que leur devoir doit répondre à celui de l'autorité. Si les ordres que vous donnerez à vos enfants, si les réprimandes que vous leur adresserez, procèdent des impressions du moment, de mouvements d'impatience, d'imagination, de sentiments aveugles ou irréfléchis, ces ordres ne pourront être la plupart du temps qu'arbitraires, incohérents, peut-être même injustes et inopportuns. Aujourd'hui, vous serez pour ces pauvres petits d'une exigence déraisonnable, d'une sévérité inexorable. Demain, vous laisserez tout passer. Vous commencerez par leur refuser un rien, et le moment d'après, fatigué de leurs pleurs ou de leurs bouderies, vous le leur accorderez avec des démonstrations de tendresse, pressé d'en finir une bonne fois avec une scène qui vous irrite les nerfs. C'est magnifique. C'est très beau ce que dit là l'Église. Les papes, le magistère, rentrent dans le concret un petit peu. C'est vrai, quand on est à la maison, il y a le petit qui crie un petit peu. Bon, maintenant, tu obéis. Tu le fais. Puis au bout de 15-20 fois, bon, allez, on laisse passer. Eh non, il ne faut pas laisser passer. Pourquoi donc ne savez-vous pas dominer les mouvements de votre humeur, mettre un frein à votre fantaisie, vous conduire vous-même alors que vous entreprenez de conduire vos enfants? Peut-être que vous vous souvenez ici d'une phrase qui était dite par Pie XII, on l'avait citée dans les autres conférences, c'est que la famille est une école de sainteté. Et d'abord, sainteté chez les parents, parce que c'est les parents qui doivent donner l'exemple. C'est les parents qui sont la forme, un petit peu, qui vont former les enfants. Comme dit Saint-Pierre au sujet du prêtre, qui doit former les fidèles, Il est la forma facti grégis, ex animo. C'est la forme, celui qui donne la forme à ce petit troupeau qu'est la famille, ex animo, du fond du cœur, du fond de l'âme. Mais c'est ça la famille. Mais pour cela, il faut soi-même se dominer. Il faut soi-même tendre, aspirer à la sainteté, donc à ordonner en soi les passions. Si à un moment donné, vous croyez ne pas vous sentir parfaitement maître de vous-même, remettez à plus tard, à un moment meilleur, la réprimande que vous voulez faire, la punition que vous pensez devoir infliger. Dans la fermeté paisible et tranquille de votre esprit, votre parole et le châtiment trouveront une toute autre efficacité, plus de pouvoir éducateur et plus d'autorité que n'en sauraient avoir les éclats d'une passion mal dominée. N'oubliez pas que les enfants, même les tout-petits, sont tout yeux pour observer et remarquer et qu'ils s'apercevront tout de suite des changements de votre humeur. Dès le berceau, à peine arriveront-ils à distinguer leur maman d'une autre femme, qu'ils se rendront vite compte du pouvoir qu'a sur des parents faibles un caprice ou une crise de larmes. Et dans leur innocente petite malice, ils ne se feront pas faute d'en abuser. C'est magnifiquement dit, ça. Il y a tout. Il y a l'innocence du petit qui, bon, il n'est pas tout à fait encore conscient, mais il y a quand même la malice du péché originel qu'il faut corriger. Hein. Et les enfants se rendent tout à fait compte du pouvoir qu'ils ont sur leurs parents. Il y a l'innocence du petit qui, bon, il n'est pas tout à fait encore conscient, mais il y a quand même la malice du péché originel qu'il faut corriger. Et les enfants se rendent tout à fait compte du pouvoir qu'ils ont sur leurs parents, avec leurs petits caprices. Très beau, vraiment c'est à méditer, à relire, à écouter. Gardez-vous donc de tout ce qui pourrait amoindrir votre autorité auprès d'eux. Gardez-vous de gaspiller cette autorité en les habituant à de continuelles, insistantes recommandations et observations qui finissent par les lasser. Ils feront la sourde oreille et n'y attacheront plus aucune importance. Gardez-vous de jouer ou de tromper vos enfants avec des raisons ou explications fallacieuses et sans consistance données au petit bonheur pour vous tirer d'embarras et vous débarrasser de questions importunes. Et c'est vite fait, bien sûr. Hein. On est en train de tourner, je ne sais pas quoi, la soupe ou la purée. Le petit qui vient pour... voilà. Hop, une explication, on se tire d'embarras, va voir ailleurs. Et voilà. Mais non. C'est sûr que ça n'est pas facile, c'est toute une école de sainteté pour les parents, mais il faut y tendre absolument. Sans cela, il n'y aura pas l'ordre dans la famille, il n'y aura pas l'unité ensuite conservée chez les enfants plus tard. S'il ne vous paraît pas bon de leur donner les vraies raisons d'un ordre ou d'un acte, mieux vaudra faire appel à leur confiance en vous, à leur amour pour vous. Ne faussez pas la vérité, au besoin, taisez-la. Vous ne soupçonnez peut-être même pas quels troubles et quelles crises peuvent naître dans ces petites âmes le jour où elles viendront à constater qu'on a abusé de leur naturelle crédulité. Gardez-vous aussi de laisser transparaître le moindre signe de désunion entre vous, la moindre différence entre vous dans la façon de traiter vos enfants. Encore une fois, toujours la même réalité à atteindre, ce bien commun de la famille qui est l'unité de la famille dans la tension vers la paix de la vertu, la paix du bien, la paix de l'accomplissement des commandements, la paix de la charité. Ils s'apercevraient bien vite qu'ils peuvent se servir de l'autorité de la mère contre celle du père ou du père contre la mère, et ils résisteraient difficilement à la tentation d'employer cette divergence à satisfaire toutes leurs fantaisies. Gardez-vous enfin d'attendre que vos enfants aient grandi en âge pour exercer sur eux une autorité bonne et calme, mais en même temps ferme et nette, qui ne cède à aucune scène de larmes ou de colère. Dès les débuts, dès le berceau, dès les premières lueurs de leur petite raison, faites en sorte qu'ils sentent sur eux des mains caressantes et délicates, mais aussi sages et prudentes, vigilantes et énergiques, les deux, la douceur et la fermeté qu'avait notre Seigneur. douceur et fermeté, il ne transigeait pas sur la faute, il ne transigeait pas sur le péché, mais il attirait au contraire à dépasser ce péché, à dépasser le manque au commandement et à s'aligner dans l'ordre de la charité. Marie-Madeleine, il lui a dit qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas. Il lui a dit ce qui en était, mais en même temps il l'a attiré à beaucoup plus, à accomplir le commandement de l'amour, de la charité. La sévérité qu'il avait envers les pharisiens, qui avaient un ordre simplement légal, hein, qu'on pourrait comparer à ce qui a été dit tout à l'heure, cette sévérité inexorable qui est tout à fait parfois inopportune, injuste même, qui ne correspond pas à la vie réelle qu'ils avaient, les pharisiens, sépulcre blanchi, comme disait notre Seigneur, parce qu'ils fournissent, ils donnent des commandements, mais ils ne les accomplissent pas. Ce sera donc une autorité sans faiblesse que la vôtre, mais une autorité née de l'amour, toute imprégnée et soutenue par l'amour. Soyez les premiers maîtres et les premiers amis de vos enfants. Si c'est vraiment l'amour paternel et maternel qui inspire vos ordres, un amour chrétien à tous égards, et non une complaisance égoïste plus ou moins consciente, vos enfants seront touchés et ils lui répondront au fond de leur âme sans que vous ayez besoin de beaucoup de paroles. Car le langage de l'amour est plus éloquent par le silence de l'action que par les accents des lèvres. Il y a des phrases là qu'il faudrait encadrer, hein, celles qu'on a dites tout à l'heure, celle-ci aussi, la force de l'autorité. C'est ce langage de l'amour qui est plus éloquent par le silence de l'action que par les accents des lèvres, l'exemple des parents, l'union entre eux. Ensuite, l'exemple dans l'exercice de l'autorité, toujours la même chose, toujours demander les mêmes choses, même si ça doit peut-être lasser, mais les mêmes ordres qui sont sous-tendus, soutenus, dirigés, précédés, ensuite accompagnés et terminés par la charité, par cet amour qu'on a pour les âmes des enfants. 1000 petits signes, une inflexion de voix, un geste imperceptible, une légère expression du visage, un signe d'approbation, leur découvriront mieux que toutes les protestations quelle affection inspire une défense qui les afflige, quelle bienveillance se cache dans une recommandation qui les ennuie. Alors la parole de l'autorité apparaîtra à leur cœur non comme un fardeau pesant ou comme un joug odieux qu'il faut secouer le plus tôt possible, mais bien comme la suprême manifestation de votre amour. Et l'amour ne s'accompagnera-t-il pas de l'exemple ? Poursuit Pie XII. Comment les enfants, naturellement prompts à imiter, pourraient-ils apprendre à obéir s'ils voient en toute occasion leur mère ne faire aucun cas des ordres de leur père ou même se plaindre de lui ? S'ils n'entendent entre les murs de la maison que critiques irrespectueuses de toute autorité ? S'ils remarquent que leurs parents sont les premiers à ne pas accomplir les commandements de Dieu et de l'Église ? Et tout l'enseignement, je suis peut-être un petit peu insistant, lourdement insistant, mais tout l'enseignement est simplement de la philosophie naturelle, de la philosophie, de l'ordre naturel, de l'observation de cet ordre créé par le bon Dieu, ensuite de l'ordre de la grâce, tout l'enseignement tourne autour de quelques principes. L'ordre, le respect des autorités hiérarchiques, l'unité d'action. Si on accomplit simplement ces petites choses dans la famille, tout est clair. Tout parviendra au bien le plus grand. Donc cette béatitude dont on parle depuis le début. Oui, ceci pourrait s'appliquer à l'heure actuelle. Je pense que même chez nous, souvent on ne fait pas tellement attention. C'est ce que l'on remarque un petit peu partout dans ce qu'on appelle les milieux traditionnalistes, les milieux intégristes. C'est que, de par la crise de l'Église, on est un petit peu, malgré nous, et parfois sans qu'on y fasse attention, donc sans qu'on y prête garde, confiné à une sorte de petit ghetto. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas prendre cette mentalité qui est un peu détestable, et que l'on est obligé de constater, c'est que, bon, on se connaît tellement bien, tous les membres de la tradition se connaissent tellement bien que... Ça parle, ça parle, ça parle, et ça parle devant les enfants, devant les petits, devant les plus grands, devant les adolescents. On parle de tous les problèmes, de n'importe quel problème, Problème que les époux peuvent avoir entre eux, quels que soient les problèmes. Problème que les époux peuvent avoir avec d'autres familles, que ce soit la parenté, que ce soit les familles de la tradition. Problème qu'il peut y avoir entre les parents, etc., et les prêtres, et les éducateurs, et les écoles. Ce qui fait que les oreilles des enfants, comme c'est très bien dit ici, les oreilles des enfants qui sont naturellement prompts à imiter, feront en sorte que leurs âmes n'auront plus un jugement droit. Elles verront papa, maman faire ceci, demander le respect de l'autorité, et du même côté ne pas respecter entre eux l'autorité qui est due. Ne pas respecter entre eux-mêmes et l'autorité, par exemple, de l'Église, les commandements de l'Église, l'ordre qui est dû. Qu'est-ce qu'il en adviendra? Les petites âmes seront faussées. Et ce sera très difficile ensuite de rattraper la chose, de rectifier leur âme, de rectifier leurs facultés, qui seront faussées dès le départ. Jugement faux, volonté qui sera un peu tortueuse, intelligence qui sera critique, et c'est la destruction de tout ordre. C'est la destruction de cette tranquillité, de la paix entre nous. Et c'est ce qui fait la force de nos ennemis, c'est sûr. Alors là, si je peux vous supplier, et supplier ceux que vous verrez, même je pense qu'il faut, chez nous, essayer vraiment d'établir cet ordre de la charité qui fait attention à ces petites choses, qui fait attention à ne pas susurrer, ne pas mettre malgré nous, même sans y faire attention, sans y prêter garde, mais de mettre dans les âmes des petits-enfants ce non-respect de toute autorité qui fait la décadence de toute société. C'est capital, capital. Faites qu'ils aient au contraire sous les yeux un père et une mère qui, dans leur façon de parler ou d'agir, donnent l'exemple du respect des autorités légitimes, de la fidélité constante aux propres devoirs. Je dirais même, il faut faire attention à une chose, chose qui peut être légitime, mais faire attention, notre situation est difficile, bien sûr, on est obligé parfois de parler des autorités légitimes de l'Église, pape, évêque, prêtre, qui sont dans l'Église moderne. Je dirais qu'il faut même faire attention lorsqu'on en parle devant les enfants. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, on ne peut pas faire autre chose, il faut dire la vérité, c'est vrai. C'est que le pape ne fait pas ce qu'il devrait faire. Les évêques ne sont pas ce qu'ils devraient être. Mais alors, on en parle comme ça de manière ouverte et parfois trop directe, devant les petits. Qu'est-ce qui reste chez les petits? Il reste la critique de l'autorité qui est quand même légitime, même si cette autorité faillit dans son devoir, c'est clair. Mais les petites âmes ne sont pas habituées à faire la distinction entre la personne qui est investie d'une autorité et l'autorité elle-même, l'exercice de cette autorité. L'individu, qui s'appelle Jean-Paul II, et la fonction de pape ne font pas la distinction. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur restera? Il leur restera l'habitude de voir dans les supérieurs une instance arbitraire. Et ça, ça pourrait être tragique. On doit penser encore que notre situation n'est pas une situation définitive. Pour l'instant, on est considéré comme les parias, on aurait foulé dans une sorte de ghetto, le milieu tradit. Mais on est d'église. Et l'église, c'est une communauté. Et le bien commun de l'église, c'est justement cette paix, cet ordre dans l'église. Donc le respect de la hiérarchie. Donc il faut maintenant, si on pense à ce que l'on veut restaurer, on veut restaurer l'Église, il faut penser à instaurer dans l'âme des enfants ce respect de l'autorité. Et donc il faut faire très attention dans les critiques que l'on peut faire. C'est souvent délicat, c'est souvent difficile, mais je crois que c'est un souci constant que l'on doit avoir. Il faut y tendre. Un exemple si édifiant leur apprendra aux petits-enfants plus utilement que la plus étudiée des exhortations, ce qu'est la véritable obéissance chrétienne et comment ils devront la pratiquer eux-mêmes envers leurs parents. Soyez persuadés, chers époux, que le bon exemple est le plus précieux patrimoine que vous puissiez donner et léguer à vos enfants. C'est la vision ineffaçable d'un trésor d'œuvres et de faits, de paroles et de conseils, d'actes pieux et de démarches vertueuses, qui restera toujours vivante, imprimée dans leur mémoire et leur esprit comme un des souvenirs les plus émouvants et les plus chers, qui rappellera et ressuscitera pour eux vos personnes aux heures de doute et d'hésitation entre le bien et le mal, entre le danger et la victoire. Aux heures de trouble, quand le ciel s'assombrira, vous leur réapparaîtrez comme à un horizon lumineux, comme à un horizon lumineux qui éclairera et dirigera leur chemin, grâce au chemin déjà fait par vous, parcouru dans ce travail et ces peines qui sont le prix du bonheur d'ici-bas et du ciel. Est-ce un rêve? Non. La vie que vous commencez avec votre nouvelle famille n'est pas un rêve. C'est un sentier où vous marchez, investi d'une dignité et d'une autorité qui veulent être une école et un apprentissage pour les enfants de votre sang qui y marcheront après vous. C'est ça la tradition. Que le Père Céleste, qui en vous appelant à participer à la grandeur de sa paternité, vous a communiqué aussi son autorité, que le Père Céleste daigne vous accorder de l'exercer à son imitation dans la sagesse et l'amour.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.